Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6 heures avant minuit, vous êtes sur Syllab, merci de nous écouter. On commence tout de suite avec le flash d'Héloïse.
Vladimir Poutine ferme le robinet. Moscou a annoncé aujourd'hui l'interdiction des exportations de kérosène. Ce carburant ne sera plus expédié à l'étranger jusqu'au 30 novembre. But de la décision, assurer la stabilité du marché intérieur, selon le gouvernement russe. Les frappes ukrainiennes se multiplient contre les raffineries et infrastructures énergétiques de la Russie. Le pays a déjà restreint ses exportations d'essence et peut-être bientôt de diesel. Diesel dont la production russe a chuté d'environ 10% le mois dernier. Israël poursuit sa politique expansionniste, cette fois jusqu'au Liban. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui après le nouveau coup de force de Benjamin Netanyahou dans le pays du Cèdre, dans la nuit de samedi à dimanche. Solène, tu fais le point.
Dans le sud du Liban, un drapeau israélien flotte au-dessus de la forteresse de Beaufort et de la fumée s'élève aux alentours. Érigée en haut d'une crête à plus de 700 mètres, la forteresse médiévale est un choix stratégique puisqu'elle surplombe le sud du pays et même une partie du nord d'Israël. La prise du Beaufort et l'expansion de la manœuvre terrestre constituent un message clair à nos ennemis. Quiconque menace les citoyens d'Israël perdra ses atouts stratégiques les uns après les autres, a commenté Israël Katz, le ministre de la Défense israélien. En plus d'être stratégique, cette prise est aussi hautement symbolique. L'armée israélienne avait déjà utilisé ce château fort comme base pendant son occupation du Liban de 1982 à 2000. L'édifice est depuis classé patrimoine mondial de l'UNESCO et en 2024, il a été accordé à la forteresse médiévale une protection renforcée. Au regard du droit, elle ne peut donc pas être utilisée en soutien à une quelconque action militaire. Cette mesure n'a pourtant pas empêché Israël de s'attaquer à plusieurs autres biens culturels du pays auparavant. Plusieurs sites du Liban ont été détruits ou fortement endommagés par l'armée israélienne. Si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est réjoui en saluant un tournant majeur, les civils libanais, eux, se demandent jusqu'où l'État hébreu est prêt à aller, d'autant plus que cette attaque a lieu en pleine négociation et surtout en période supposée de cessez-le-feu. Instauré le 16 avril, il n'a en réalité jamais été respecté.
Merci Solène. Et depuis le début de la guerre, le 2 mars dernier, plus de 3300 Libanais et Libanaises ont été tués. Beyrouth parle aussi de plus d'un million de déplacés. Le scénario de la servante écarlate, ce n'est plus uniquement de la fiction. Pas en Afghanistan, en tout cas, où une nouvelle loi sur le divorce restreint un peu plus les droits des femmes et des enfants. Sous la loi talibane, le mariage des enfants n'est pas interdit, mais depuis le 14 mai, une mineure n'a pas plus non plus le droit de demander le divorce jusqu'à sa puberté. À ce moment-là, elle peut s'opposer à son mariage et uniquement à ce moment-là, son silence vaudra consentement pour le restant de sa vie. Une centaine d'organisations de défense des droits humains ou des femmes ont appelé à l'abrogation de ce texte. Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet ?
Oui.
Ça t'arrive, Aïsa, ouais. Eh ben, sache que tu as peut-être consommé un liquide pollué chimiquement. Ce serait le cas de 19 millions de Français et Françaises, soit environ 30% de la population en 2024. Des médecins libéraux alertent aujourd'hui dans une lettre au gouvernement. Pour ces professionnels, notre eau du robinet regorge de pesticides, polluants éternels et microplastiques. Une menace, je cite, « systémique, insuffisamment encadrée, aux conséquences sanitaires potentiellement considérables. Risque pour le système hormonal, nerveux et immunitaire, possible lien avec des pathologies cardiaques et cancéreuses, troubles neurodégénératifs, hypofécondité. Les médecins appellent à une surveillance accrue des substances en cause, une amélioration des systèmes de filtration, une réduction des PFAS et des plastiques et un développement de l'agriculture biologique. » Autre maladie de plus en plus fréquente, le cancer de la prostate. On compte 60 000 nouveaux cas et 9 000 décès chaque année. Pour cette raison, le centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis de Rennes propose maintenant des IRM de dépistage via la plateforme Doctolib. C'est une première en Bretagne et ça devrait permettre de prendre des rendez-vous plus rapidement, mais aussi de dépister plus précocement la maladie. Une façon d'augmenter les chances d'obtenir un traitement efficace ou même de guérir. En quelques clics, prenez rendez-vous grâce à votre ordonnance sur doctolib.fr. Un mort et 780 interpellations. Le bilan des célébrations après la victoire du PSG en Ligue des Champions tourne au drame. Et c'est bien les violences qui font la une plutôt que l'exploit du club parisien, deuxième de l'histoire à être sacré champion pour la seconde fois consécutive. Sur les réseaux sociaux, on voit surtout défiler les images de chaos urbain, tentatives de pillage et confrontations avec les forces de l'ordre. Ce matin, sur France Info, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a parlé d'une, je cite, violence endémique devant nous interroger sur l'éducation d'une partie de nos fils. À Rennes, une centaine de personnes se sont réunies place Sainte-Anne. Bilan de la soirée, feux de poubelle, dégradation du mobilier urbain, jet de projectiles sur les gendarmes et dégradation de 6 magasins. Leur qualification à LZE a fait beaucoup moins de dégâts. Les 4 équipes rennaises de tir à l'arc par équipe se sont qualifiées hier pour les play-offs du championnat de France. Ça s'est passé au stade Robert-Lenay à Rennes. Côté femmes, l'équipe rennaise d'arc classique s'est positionnée 7e et 3e en arc à poulie. Les hommes se placent 3e eux aussi, mais en arc classique et 1er en arc à poulie. Cette dernière équipe espère conserver son titre de champion de France décroché l'année dernière. Tout se jouera dans le Lot-et-Garonne d'ici 3 semaines. C'est la fin de ce flash, on passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Avec Aïsa ce soir.
Et oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Charlotte Arditi, vêtue de son t-shirt bleu. Bonjour.
Bonjour.
Charlotte Arditi, vous êtes présidente de l'association Maison Bruyante. Vous organisez le festival Château Bruyante. Ça se passe le samedi 2 juin de 15h à 2h du matin à Aidé-Bazouge. Avant de commencer, je vous propose qu'on écoute Merci, bonsoir. A new perder.
Shepherd.
Vraiment, le niveau d'anglais n'est pas là. Mais en tout cas, merci, bonsoir. Il sera à la programmation de ce festival. Château Bruyante, c'est bien le 6 juin, mais alors c'est quoi exactement ?
Eh ben, c'est un festival qui se passe donc à Aidé-Bazouge, qui est une petite ville au nord de Rennes, vers Saint-Malo. Voilà, une petite ville de 2500 habitants, qui est une ville très dynamique, il y a beaucoup d'associations qui font plein de choses. Et nous, on a voulu mettre notre petite pierre à l'édifice. Donc, on a créé l'association Maison Bruyante, qui est assez récente, hein, en novembre dernier. Et là, en fait, il y a un lieu qui est idéal à aider. Ce sont les ruines d'un vieux château fort. Donc, c'est une grande enceinte, très vaste, en fait, et très bien située, puisque c'est sur les hauteurs d'Aidé. Donc, c'est assez joli. Et voilà, et on avait envie d'y installer voilà, des concerts. Et petit à petit, ça s'est transformé en mini-festival, quoi, d'une journée et d'une soirée. Donc voilà, c'est là qu'est née l'idée.
Et qu'est-ce que vous attendez du coup de cette première édition ?
Eh bien, y a un peu de monde à venir quand même, que les gens passent une bonne soirée et voient des concerts qui sont cool, quoi. Et voilà, et faire rayonner peut-être un peu notre ville aussi, quoi. Alors, il y a déjà un festival qui a lieu tous les 2 ans, qui est le festival Bonus du Théâtre de Poche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et voilà, qui existe depuis longtemps. Et on a aussi un autre festival qui est assez récent, qui s'appelle le Drugfest, qui est organisé par des jeunes, en fait, qui font un festival de hip-hop, qui est là depuis 3 ans aussi, qui se passe voilà, aux ruines du château. Donc,
oui, justement, ouais. Vous l'avez dit, le cadre est assez unique. Ouais. Pourquoi le choix de ces ruines ?
Ben, parce que c'est bien situé, c'est dans la ville, et puis c'est surtout ça s'y prête, en fait. Et la mairie est assez soutenante pour ce genre de projet. Donc, nous, elle nous a dit oui tout de suite. Elle nous a même donné une subvention pour notre première édition.
Et est-ce que le lieu implique des obligations en termes d'acoustique, de sécurité ?
Non, pas particulièrement. Il y aura du barriérage pour les zones qui sont potentiellement dangereuses, quoi. Et sinon, ben, on espère que chaque festivalier va être attentif au site historique. Mais ça, c'est après, c'est un peu partout. On respecte le site dans lequel on est. Donc, on n'est pas trop inquiet avec ça. Et il n'y a pas... Au niveau sécurité, nous, on reste un petit festival. Donc, on n'a pas d'agent de sécurité. On n'a pas de fouilles, ce genre de choses. Et on ne le souhaite pas.
Et vous l'avez dit, c'est plutôt récent. Mais alors, comment vous est venue cette idée?
Ben, c'était parce que c'était ça coulait de source dans l'association de comme on créait des concerts de continuer là-dessus en fait de voilà c'est juste c'est l'essence de l'association en fait d'organiser des concerts donc voilà donc là on organise plein de concerts en même temps.
Et là justement il y a aussi des activités notamment à partir de 3 ans pour les enfants.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quelles seront ces activités?
Et ben, on avait envie que ce soit aussi inclusif, effectivement, pour les familles. On met des baby-foot à disposition. On met plein de matériel créatif dans l'idée de faire une activité qui s'appelle « Dessine ton plus beau château ». Donc, il y aura de la peinture, des feutres, du lapastel, plein de choses différentes, des choses à découper. Et après, les enfants pourront afficher leurs créations. Et il y a aussi un atelier cyanotype qui est organisé par ma sœur. Et voilà, donc là c'est sur inscription parce qu'il y a un nombre limité d'enfants quand même, il y a un peu de logistique, il faut aller chercher dans la nature des petites choses et puis après les faire, c'est de la photographie monochrome en fait, donc voilà.
Et vous parlez de votre sœur, pardon, je vous coupe, mais du coup c'est une association qui est très familiale, il y a combien de bénévoles, comment ça se passe?
Dans l'association, il y a moi, mon conjoint et une copine. Et après, on a des bénévoles très proches qui sont plutôt actifs. Et puis après, on a des bénévoles qui sont un peu plus lointains. Mais c'est vrai que c'est très familial, puisque toute ma famille vient et nous aide. Et voilà.
Justement, ce sens de la famille, il est important pour vous aussi dans le fait de proposer un événement accueillant pour les plus jeunes?
Ouais, c'est important, ouais.
Oui, pourquoi?
Parce que ça reflète aussi ce qu'on est, quoi, et l'ambiance du festival. Je pense que s'il y a une bonne ambiance dans l'équipe bénévole, ça se ressent aussi dans l'organisation, et voilà, ça coule, quoi.
On va parler un peu de la programmation et des artistes. Ce sont 9 groupes issus de la scène indé. On écoute d'abord un extrait de Onag Anezet.
Alors c'est Onag N.
Oui. Onag N et son titre Dust.
Dancing into space like us before the sun comes up. Spend some time with love.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette artiste?
Eh bien, c'est une artiste qui est un petit peu en train de monter, qui commence à avoir une petite notoriété en ce moment, qui est pas mal chroniquée, qui a été chroniquée là dans Libé, Les Inrock et dans Gonzaï récemment, parce qu'elle vient de sortir un album sur le label Molly Deltro, qui est super, c'est un super album, vraiment. Et d'autant plus qu'il y avait peu de choses avant sur elle en ligne, alors qu'elle était déjà passée finalement au transmusical, mais il y avait peu de choses en écoute et je trouve que... L'album, c'est de la techno sombre et lente et avec des basses et sa voix pitchée et tout. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'original et j'ai hâte de voir ça en concert.
Et justement, ce sont des artistes aux influences très diverses comme Marie Cloc, avec Rentrée à la maison qu'on écoute tout de suite.
Chargé de cadeaux, ça fait 6 mois que t'as pas vu tes parents, t'as mis les beaux habits, tu te sens bien, t'as plutôt réussi dans la vie. Mais ça commence dès que t'ouvres la porte, maman trouve que t'as grossi, papa te parle de ses maladies.
Comment vous décririez son univers?
C'est de la pop avec un piano électrique et voilà, des machines. Et puis elle chante, alors c'est un peu décalé, ses chants, c'est presque du slam en fait. Et voilà, c'est vrai que ça, au niveau de la production, ça a pris un peu plus d'ampleur parce que là, elle n'est pas toute seule sur le dernier album. Elle est avec Anadol, qui est une artiste turque, et son album précédent aussi. Mais elle a fait des albums solo où c'est plus minimaliste sur la production. Mais ouais, bah, je dirais poète, chant, piano électrique, poète décalé, je dirais.
Et comment il s'est fait ce choix des artistes ?
C'est de la musique qu'on écoute en fait, la musique qu'on aime simplement. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que c'est très éclectique, on écoute plein de choses différentes.
Et oui, et il y a aussi Svedia
Inferno. Ouais. Donc ça c'est un artiste suédois, ouais, qui fait de la techno très sombre aussi.
On peut écouter, je pense, mais un petit
dansante extrait. Quand même.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces projets-là ?
Dans les projets musicaux ?
Oui.
Bah, c'est la musique que j'écoute, que j'aime en fait. Tout simplement.
Et plus calme, on a aussi Philippe Bossard et ses synthétiseurs avec Envol. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet artiste ?
Bah là, c'est effectivement, c'est beaucoup plus calme hein, comme musique. Bah, Philippe, il est fan de synthétiseurs et il fait beaucoup de musique minimaliste, voilà, un peu à la Philippe Glass. Et là, après, c'est des morceaux assez anciens, finalement, ce qu'il a en ligne. Là, il est en résidence en ce moment et il fait plein de nouveaux morceaux. Voilà, le festival a été l'occasion pour lui de se mettre en résidence. Donc, je pense qu'ils avaient des choses un peu nouvelles et il va venir avec une scie musicale, nous a-t-il dit. Donc voilà, on va découvrir en même temps.
Et l'idée, c'est vraiment de présenter tous les genres musicaux ?
Ça s'est fait comme ça, en fait. On n'a pas voulu spécialement avoir une ligne artistique très précise. On n'a pas voulu se dire, bah, tiens, on va faire un festival de techno ou on va faire un festival que avec de la pop. Je pense que c'est vraiment, ça reflète ce qu'on écoute, tout simplement, et voilà. Et c'est vrai qu'après, on commence aussi le festival à 15h, donc on s'est dit qu'on n'allait pas forcément mettre de la grosse techno qui tape à ce moment-là. Donc ça va être plutôt de la musique un peu plus calme en début d'après-midi, et puis ça va aller crescendo un peu, quoi.
Et on a le groupe 178 degrés aussi, ouais. Avec Firebutt. D'entendre une partie de la programmation. On peut préciser aussi que ces artistes joueront sur deux scènes.
Alors finalement, non. Finalement, on a changé. Finalement, il n'y aura qu'une scène pour les 9 groupes et il y aura quand même une scène en plus pour le collectif Acid Karaoke Tropa Cabana. Voilà. Finalement, on a changé la conception du festival parce que c'est plus simple pour nous comme ça au niveau de la technique et de l'électricité. Voilà. Donc, finalement, pas de scène.
Ah oui, mais c'est peut-être aussi plus simple pour vous, pour tout corps.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'était plus simple comme ça.
Et vous avez
la scène principale sera sous un chapiteau aussi.
Voilà. En cas de pluie.
En cas de pluie, tout à fait.
Et en termes de personnes, combien de personnes peuvent tenir dans ces ruines ? Je visualise ça très bien.
Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1000 personnes assez facilement. Je sais qu'au Drugfest, ils accueillent 1000 personnes. Ouais. Donc c'est assez vaste, on va dire. Enfin, après, c'est pas les vieilles charrues non plus. Hein, mais... mais peut-être.
Non. Donc vous avez la volonté de représenter tous ces artistes et leur univers. D'ailleurs, certains et certaines sont rennais et rennaises, comme Bops, dont oui. On peut écouter un extrait tout de suite. Sweet as the sound of the street, sweet as the sound, and life has gone on. The night is on now. 500 shades in the sky, yeah. I'm working at my best. Crack of dawn, and feel the flesh. C'est important pour vous de laisser la place dans ce festival à des artistes locaux ?
Ouais, tout à fait. C'est important, il y a plein d'artistes locaux qui sont super. Donc voilà, c'est bien de les faire jouer et puis ça nous coûte moins cher en défraiement aussi. Donc.
Et le secteur rennais, c'est un bon vivier quand on cherche de la musique alternative ?
Ouais, il y a une scène indépendante, underground, qui est assez vivante quand même. Ouais.
Et plus que dans d'autres villes ?
Bah ça, je sais pas trop. Il y en a aussi dans les autres villes. Hein.
Mais du coup, c'est justement utiliser aussi toute cette culture et cette musique qui est déjà là dans les scènes locales que vous essayez de réemployer.
Ouais, je pense que ça reste quand même une scène qui existe de toute façon, oui, bien sûr. Mais qui se retrouve après, je pense que... Finalement, le réseau est assez serré, même dans les villes, en fait, on retrouve un peu les mêmes groupes qui tournent dans les mêmes endroits aussi et dans les mêmes réseaux, quoi. Donc, c'est pas complètement atypique notre programmation, elle existe déjà sur cette scène-là.
Et pour la plupart, ce sont aussi des artistes qui ont fait déjà d'autres EP avant et qui en sortent des nouveaux. C'est important aussi de.
Bah, en fait, ça a été un peu finalement le hasard, parce que Marie Cloque, je savais pas qu'elle allait sortir un album qui est sorti là. Elle a fait la release party la semaine dernière. Donc ça, c'était tant mieux, quoi. Et puis au Nag Egg, je ne savais pas non plus qu'elle allait sortir un album. Donc voilà, c'était un peu la surprise. Ouais. Après, c'est assez récent. Bob's, ils ont sorti un album, c'est l'année dernière. Pizza Noise aussi, c'était l'année dernière. Donc il y a quand même des sorties relativement récentes. Philippe Bossard, peut-être que ce sera l'occasion pour lui de sortir quelque chose, ce festival.
Et vous venez de l'évoquer, Pizza Noise Mafia, qui vient de Belgique. On écoute tout de suite un extrait. Puis on va enchaîner tout de suite avec Toujours l'été, qui est aussi à la programmation. Dit Châteaubriante, c'est la première édition. Comment on finance un festival comme ça ? D'autant plus que vous n'avez pas fait appel à des partenaires particuliers.
Privés ? Non, on n'a pas fait appel à des partenaires privés. C'est un choix. On n'a pas envie d'être affilié à une marque ou à une entreprise privée. Donc voilà. On ne s'est même pas posé la question, en fait. C'est juste qu'on ne l'a pas fait. Et on a quand même demandé des subventions publiques. On en a eu un petit peu avec la mairie, comme je disais tout à l'heure, et aussi avec la Bretagne romantique, du coup la communauté de communes de la Bretagne romantique. Et sinon, si c'est un four, c'est nous qui payons de notre poche. Voilà.
Et comment ce choix s'est fait ? C'est depuis longtemps, l'association ne veut pas collaborer avec des acteurs du privé ?
L'association, elle est récente. Donc voilà, après, c'est juste, c'est pas dans notre politique, en fait. Tout simplement, à un autre niveau, au-delà de l'association.
Et j'imagine que ça justifie aussi le prix d'entrée qui est de 18 euros.
Ouais, alors on aurait voulu faire un prix libre à la base, mais c'est vrai qu'il y avait un enjeu financier quand même important. Et voilà, et on se dit qu'avec 9 groupes, 18 euros, c'est pas non plus trop demandé. Et voilà, on espère que si on continue le festival, dans l'idée, on aimerait faire prix libre pour que ce soit plus équitable pour tout le monde.
Et est-ce que pour cette édition, il y aura des tarifs préférentiels ?
Non, pas pour cette édition. On fait gratuit pour les moins de 12 ans. Le camping est gratuit aussi. Mais sinon, c'est un prix fixe. Ouais. Alors, c'est 18 euros en pré-vente et 20 euros sur place.
Okay. Voilà. Bah, super. Merci Charlotte Arditi d'avoir pris le temps de nous parler. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association Maison Bruyante. Samedi 6 juin, c'est la première édition de votre festival Château Bruyante. Oui. C'est de 15h à 2h du matin à Aide-et-Bazouges. Le tarif, 18 euros en pré-vente et 20 sur place. Oui. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Merci à
vous. C'est ça. Merci beaucoup.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Nouvelle chronique aujourd'hui dans 6h avant minuit, c'est la chronique médicale de Solène. Et pour cette première, tu vas nous parler d'un phénomène rare, le phénomène de Lazare.
Jeudi 23 avril dernier, un homme de 62 ans a été déclaré mort par les médecins du CHU de Rennes. 3 heures plus tard, il présentait de nouveau des signes de vie. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2025, le quotidien italien La Stampa annonçait qu'un homme était revenu à la vie 30 minutes après l'annonce de son décès. Ils ont tous les deux expérimenté ce qu'on appelle le phénomène de Lazare. Nommé en référence au personnage biblique de Lazare de Béthanie, sorti vivant de sa tombe 4 jours après sa mort, ce phénomène est extrêmement rare. Selon une étude parue en 2023 dans la revue Journal of Clinical Medicine, seulement 76 cas ont été rapportés entre 1982 et 2022. Le phénomène de Lazare, à ne pas confondre avec le syndrome de Lazare, est la récupération spontanée d'une activité circulatoire après l'arrêt de réanimation à la suite d'un arrêt cardiaque. Pour faire plus simple, c'est lorsque le cœur d'un patient déclaré mort redémarre tout seul. Les premiers cas de ce phénomène ont été décrits dans la revue The Lancet en 1982, et le terme « phénomène de Lazare » a lui été utilisé pour la première fois en 1993 par l'anesthésiste américain Jack Bray. Il est paru dans la revue Anesthésiologie. Selon Le Monde, après un phénomène de Lazare, on estime cependant que 64% des patients décèdent au cours de leur hospitalisation. De plus, le patient n'est pas forcément épargné par les séquelles neurologiques. La récupération neurologique, qu'elle soit partielle ou complète, n'est observée que dans 45% des cas. Le cas de phénomène de Lazare a également été observé en pédiatrie, mais aucun des enfants n'a finalement survécu très longtemps. Observé depuis de nombreuses années par les médecins, ce phénomène n'a pas fini de dévoiler tous ses mystères. Si aucune explication n'a encore été trouvée, plusieurs théories sont avancées par les médecins. Le phénomène pourrait être lié à une bradycardie où le cœur bat extrêmement lentement. Michel Yerma, chef de service des fonctions urgence et SMUR du groupe de santé CHC à Liège en Belgique, a avancé une autre hypothèse à Ouest-France en 2025. Je cite « Quand on fait une réanimation, on masse le cœur, on administre des médicaments et on ventile le patient. Il est possible que les méthodes d'administration d'oxygène dans les poumons empêchent l'arrivée vers le cœur des médicaments que l'on administre. L'hypothèse, c'est qu'au moment où on arrête tout ça, il y a un retour de circulation qui amène à ce moment-là les médicaments au niveau du cœur et le font repartir. Et si ça peut en effrayer plus d'un à l'idée de se retrouver enterré vivant, pas de panique. Le personnel médical suit un protocole très précis. De plus, la résurrection a généralement lieu quelques minutes seulement après la déclaration du décès. Il est donc quasiment impossible que l'équipe médicale ne s'en rende pas compte. »
Quasiment. Merci Solène, à bientôt pour un nouvel épisode de ta chronique médicale. Et je crois qu'on a des messages sur le répondeur, je te laisse appuyer sur le bouton. Clic.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Et bonjour Syllab, c'est Maxime Guéot. Est-ce qu'ils ont réparé la clim dans le studio ?
parce que si vous n'avez pas de clim, il y a la clim le 2 juin, mardi prochain, à mon spectacle, à 21h, à la Comédie de Rennes. Venez nombreux et nombreux, et il reste plein de place. Allez, bisous.
Coucou, je vais laisser un petit message de remerciement à Laurine et à toute l'équipe de Sortie Briquet pour la soirée de la saison 4 au Grand 8. C'est vrai que de l'apprendre que l'émission va s'arrêter bientôt, c'est dire que j'ai découvert l'émission au tout début grâce à Radio Bois et puis bien sûr à Silab. Et que pendant ces 5 merveilleuses années, c'est vrai que j'étais un peu triste d'entendre la mauvaise nouvelle vendredi soir, et j'ai versé une petite larme parce que je me suis dit ça y est, c'est terminé, et donc j'espère que tout le monde faire des nouveaux projets ou peut-être rester à la radio Silab pour plus tard, ou peut-être partir sur d'autres radios associatives, comme je pense à Julie qui est toujours à Radio Prune à Nantes, qui est une très très bonne radio associative étudiante de la ville de Nantes, donc de Nantes métropole. Et que pour Amna, bien sûr, les études à Berlin, Maïli qui est restée, je crois, du côté d'Avignon, donc voilà, et puis bien sûr, Laurine et Steph que j'embrasse très très fort. Donc pour l'instant j'ai pas d'infos, vu que à mon avis c'est peut-être la fin de l'année et que les festivals d'été arrivent, donc je pense que c'est plus la peine que j'appelle le répondeur de 6h avant minuit, donc je pense que avec tous les trucs qui vont arriver, les grands festivals comme Rock en Seine, The Rockin' de Belfort, ou du Rock, No Logo, Francophonie de La Rochelle, etc. etc. Et donc c'était pour laisser vraiment le message de remerciement à l'ensemble de l'équipe de Sortez les Briquets. Voilà. Allez, gros bisous à vous, et puis bien sûr à plus tard, et puis peut-être à tout à l'heure, parce que je vais peut-être m'occuper de la technique de l'émission. J'irai cracher sur vos ondes après l'émission du 6h à mon avis. Donc comme ça, ça me permettra de préparer tranquillement ma future émission qui sera peut-être cet été ou peut-être à la rentrée. Donc je saurai un peu plus. Mais pour l'instant, c'est secret. Allez, j'embrasse très très fort Louise. J'embrasse aussi à tout le monde de la radio Silab, Timothée, même les anciens du service civique, même s'ils sont plus là, mais bon, il y en a quelques-uns et quelques-unes qui reviennent quand même pour aider Héloïse à donner un petit coup de main quand même. Donc voilà. Allez, gros bisous à vous, et puis à la prochaine. Ciao.
La bise Benoît, hâte d'entendre cette nouvelle émission, et sachez que vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez adhérer à la radio et venir parler au micro, créer votre émission de A à Z. Maxime, non, la climatisation n'est toujours pas réparée dans le studio. J'en appelle à tous les plombiers qui nous écoutent. Non, je déconne, c'est la fac qui gère ça. On crève, voilà. Donc allez tous à la Comédie de Rennes et venez pas chez nous. Écoutez-nous depuis chez vous ou depuis la Comédie de Rennes pendant le spectacle de Maxime. Non, je déconne. Laissez-nous un message vocal 02 30, je suis en roue libre. 02 30 96 25 35, on diffuse tout ça à la fin de l'émission. Merci Timour pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit.
18h-19h sur Syllabe, la radio sauvage.